Merci. Lorsque le roi Akab veut faire la guerre au roi de Syrie, il consulte les prophètes officiels qui lui disent que Dieu lui donnera la victoire. Il interroge encore Michée, qui répond que le peuple d'Israël est comme un troupeau qui n'a pas de berger et que le Seigneur est contre le roi. Lorsque le prophète Anania annonce que Dieu va briser le joug du roi de Babylone et que les premiers déportés vont bientôt revenir, Jérémie dénonce ces paroles illusoires. Il écrit aux captifs pour leur dire que leur exil durera longtemps et qu'il leur faut s'installer à Babylone et rechercher la paix de la ville dans laquelle ils habitent. Ézéchiel, quant à lui, fustige les faux prophètes en leur reprochant de ne pas s'être tenus sur la brèche et de dire des paroles mensongères, d'annoncer la paix quand il n'y a pas de paix. Leurs propos lénifiants sont comme un crépi que l'on passe sur un mur pour en cacher les lézardes. Dans ces exemples, la différence entre le faux et le vrai prophète s'inscrit dans l'opposition entre la parole qui caresse et la parole qui confesse, la parole qui séduit et la parole qui avertit, la parole qui courtise et la parole qui évangélise. Comme Israël, nous voulons entendre des paroles qui nous font plaisir, des paroles qui nous rassurent, qui nous flattent. Mais ta parole, Seigneur, est une brûlure. Parfois même, elle se fait blessure, elle nous alerte, elle nous capture. Nous te remettons les lézardes de notre vie, ces déchirures que nous avons crépies, nos illusions, nos comédies. Seigneur, pardonne ma suffisance, mon orgueil, mes silences, mes fuites et mes absences. Mais ta parole est vérité. Et si elle dénonce notre péché, nous savons que c'est pour pardonner. Ton pardon est notre espérance, qu'il devienne notre assurance. Le sel et le feu de notre existence. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure. Lorsque le prophète Jérémie reçoit sa vocation, il est envoyé pour arracher et détruire, mais aussi pour planter et pour bâtir. Après le temps de l'exil arrive le temps des retrouvailles, plus fortes que nos déserts, plus vivantes que nos cimetières, retentit la parole. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance, je te rebâtirai et tu seras établi. Ainsi parle le Seigneur, éclaté d'allégresse, acclamé, jubilé. Dites, le Seigneur sauve son peuple. Oui, ils arriveront en criant de joie. Leurs visages rayonneront du devant de ce qu'ils recevront, du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour chanter « Tu consoles, tu pardonnes ».
Thank you.
Écoutons le psaume 40. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché sur moi, et en ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Amen. Transmets la nouvelle. Prenez place. Parmi les lectures proposées pour ce jour, j'en ai retenu une, celle qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 3. Alors je l'ai pris un peu plus largement, je l'ai prolongé un peu, mais j'en reparlerai. Nous allons l'écouter en deux fois, d'abord les 10 premiers versets, puis ensuite les 10 suivants. Et c'est Frédéric qui va nous lire. Donc premier livre de Samuel, chapitre 3, les versets 1 à 10. Excuse-moi, reste, tu veux venir ? Non, mais viens seulement, non, juste une prière avant la lecture, que j'avais oubliée, mais il ne faut pas. Nous prions. Ce matin, le Seigneur éveille, il éveille mon oreille, pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé, et je ne me suis pas dérobé. À ces paroles du prophète Ésaïe, ajoutons celles du livre de Samuel, « Parle, car ton serviteur écoute. Amen. »
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la... L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. « Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » « Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira oreille de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Et il y dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?»« Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et il y dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnurent que Samuel était établi prophète de l'Éternel.
Je vous invite à chanter donc écoute, entends la voix de Dieu. Prenez place. Alors avant de commencer vraiment, je dois vous confesser, c'est pas vraiment une confession, mais je dois vous dire que c'est un texte qui m'est particulièrement cher, cette histoire, parce que dans mon enfance, quand j'allais passer des vacances chez mes grands-parents maternels, on faisait un truc qu'on faisait pas à la maison, on lisait la Bible. Et ma grand-mère nous racontait, ma sœur et moi, des histoires. C'était toujours un peu les mêmes, et parmi celles qu'elle nous racontait, il y avait Zachée. Parce que ma grand-mère était de petite taille, je pense que ça lui parlait bien. Il y avait Absalom, je pense qu'elle voulait nous décourager d'avoir les cheveux longs, je ne sais pas. Et il y avait ce passage-là de Samuel. Et du coup, j'ai toujours une sensibilité à ce texte. Étudiant, je l'avais mis comme message sur mon répondeur, j'ai traumatisé des gens. À s'entendre dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », j'ai des gens qui raccrochaient, des gens qui étaient morts de rire, enfin bref, peu importe. Donc, j'ai pris un peu plus que le simple récit que j'avais enfant, c'est-à-dire le récit de la vocation, de l'appel, pour prendre le contenu du message. Parce que le lectionnaire, les auteurs du lectionnaire, avaient coupé, c'est-à-dire qu'ils avaient pris jusqu'à la réponse de Samuel, hein, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », enfin « Parle, ton serviteur écoute », et ils avaient sauté toute la discussion qui suivait pour reprendre juste la conclusion qui était « Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet ». Alors, je comprends l'idée. Je comprends, enfin j'imagine, hein, je fais souvent des procès d'intention, mais j'imagine assez facilement pourquoi ils ont sauté ce passage. Ils se sont dit que l'auditeur moyen était sans doute peu à même de savoir qui était cette Élie, qu'il ne fallait surtout d'ailleurs pas confondre en plus avec l'autre, Élie, avec un E, Donc, c'était source de confusion. Puis pourquoi ces fils, qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas. Ils se sont dit, ça va être plus simple. On va oublier cette histoire. En plus, on se dit, bah, de toute façon, en plus, c'est pas très important. Ça, c'est quand même une anecdote. Alors, oui, dans un sens, c'est plus facile, c'est plus pratique. Alors, quand je dis c'est plus facile, c'est plus pratique, vous comprenez bien que c'est à la fois un sentiment, mais aussi une critique, hein, un reproche. Parce que je vois deux problèmes. Alors, le premier est assez simple. Qui est-ce qui décide si c'est anecdotique ou pas? Si un personnage est important ou non? Parce que si on va par là, Samuel, est-ce que Samuel est vraiment un personnage important? Hein, bon, bien sûr, il y a cet épisode, mais est-ce que cet épisode en lui-même est intéressant? Il y a l'épisode éventuellement où il conseille David, où il le bénit, mais est-ce qu'on ne peut pas se passer de Samuel aussi? Et si on peut se passer de Samuel, peut-on pas se passer? Et bon, finalement, on ne garde rien. Alors vous me direz, il y a quand même deux livres qui portent le nom de Samuel, donc c'est important, un type important. Sauf qu'il meurt au bout du premier. Pourquoi le deuxième porte son nom, ça on ne sait pas non plus. Ben bon, bref. Non, cette histoire est importante, et surtout, c'est la deuxième... Ça résonne un peu trop. La deuxième raison, qui est pour moi plus forte, c'est que si on enlève le contenu, aussi anecdotique puisse-t-il nous sembler, ça nous donne l'impression que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'inconsistant. C'est-à-dire, c'est, voilà, une parole de Dieu, mais qui contient rien. Il parle à Samuel, mais il ne lui dit rien. Or, la parole de Dieu, quand elle s'adresse à nous, est toujours quelque chose de précis. C'est quelque chose de concret. Et non pas une parole qui flotte comme ça et générale. Bien sûr, il y a des paroles générales dans la Bible. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. D'accord, c'est des paroles d'ordre général. Mais si je vous dis ça, je ne suis pas prophète. Je suis enseignant, je vous enseigne ce qui est dans la Bible. Je suis éventuellement un prédicateur. Je suis éventuellement un moraliste. Mais je ne suis pas prophète. Alors, zéro discrimination. Hein. J'ai rien contre les enseignants, bien sûr, encore moins contre les prédicateurs. Bon, les moralistes, c'est plus compliqué. Hein. Les moralistes, c'est-à-dire, si être moraliste, c'est quelqu'un qui a une morale et qui s'y tient, admirable. Si un moraliste, c'est quelqu'un qui fait des préceptes de morale pour aider les autres, ça peut être utile, ça peut être bien. Si un moraliste, c'est quelqu'un qui s'occupe de la vie des autres pour faire des remarques, non merci. Bref, mais il y a une parole. Donc, interrompons-nous à cet événement avec le contenu. Un prophète, c'est pas un spécialiste. C'est pas un spécialiste de l'avenir. Un prophète, bibliquement, c'est pas quelqu'un qui va vous parler de votre avenir. Il va vous parler de votre présent. Mais le présent implique l'avenir, bien sûr. Il vous dit ce que votre attitude d'aujourd'hui va avoir comme conséquence sur votre futur. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire des prédictions, c'est pas un devin, c'est pas un astrologue. Et c'est rarement un spécialiste. Alors c'est un peu différent dans le cas de Samuel, mais généralement c'est plutôt un quidam sur qui tombe une mission qu'il va accomplir pendant un certain temps. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous peut faire cette expérience, soit d'être lui-même appelé à transmettre un message de Dieu, soit être amené à recevoir de la part de quelqu'un un message de Dieu. Et c'est en ça que cette histoire est intéressante, parce que nous avons ici deux personnages qui se comportent de façon exemplaire. Alors, vous allez me dire, Élie se fait condamner, il n'est pas vraiment exemplaire. Non, mais dans cette histoire, Élie, sans eux, donc le gardien du temple, enfin du sanctuaire, se comporte de façon exemplaire. Le prophète, donc, étymologiquement, hein, c'est prophari, celui qui parle au nom de Dieu, évidemment, dans la Bible. C'est un messager. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans la liturgie, il existe des prophètes professionnels, des prophètes de cour. Mais dans la Bible, ils sont très suspects, parce qu'ils ont tendance à caresser dans le sens du poil les puissants, dire ce que les gens ont envie d'entendre plutôt que ce qu'ils ont besoin d'entendre. Samuel, alors revenons les deux personnages. Samuel d'abord. Samuel, je pense comme toute personne qui reçoit un message de Dieu, elle a un peu de peine à faire le tri, un peu de peine à comprendre ce qui se passe. Hein, la Bible nous dit, il ne connaissait pas le Seigneur, la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Alors évidemment, il connaissait le Seigneur. Il avait été élevé depuis son sevrage dans le sanctuaire, on peut bien imaginer qu'il avait entendu parler de Dieu. Sauf que Dieu ne lui avait encore jamais parlé. Il ne connaissait pas sur un plan direct ou spirituel Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, il savait plein de choses, il s'occupait du sanctuaire. Tout à coup, Dieu s'adresse à lui de façon directe. Donc, il n'est pas tellement étonnant qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Hein, ça le surprend. Alors, il va à la conclusion la plus logique, c'est-à-dire, eh ben, c'est le vieil Élie, mon patron, là, mon tuteur, qui m'appelle. Donc, il agit de toute façon totalement raisonnable. Élie, même malgré son expérience, il met aussi un peu de temps à comprendre ce qui se passe. On ne peut pas lui reprocher non plus. Mais grâce à l'aide d'un aîné dans la foi, Samuel comprend ce qui se passe. Alors, vous le savez, les gens se divisent en deux catégories. Il y a les gens qui divisent les gens en deux catégories et les autres. Mais dans le cas présent, il y a, parmi les croyants, des gens qui pensent qu'ils sont en lien direct, permanent, constant avec Dieu. Heureusement, ils ne sont pas trop nombreux. Et ils se permettent, fort de cette certitude, de vous donner des instructions, de vous faire la morale tout le temps et à tout propos. Et l'autre catégorie, trop nombreuse elle également, qui sont des gens qui sont persuadés, non ça c'est d'autres, qui sont, comment dire, ça y est j'ai raté, qui sont fermés, hermétiquement fermés, à l'idée même que Dieu puisse leur parler. Bien évidemment, toutes les révélations qui traversent notre esprit ne sont pas de Dieu. Y compris celles qui nous paraissent venir d'ailleurs que de nous-mêmes, parce que c'est quand même des pensées bizarres. Mais pourquoi l'une d'entre elles ne serait-elle pas inspirée? Alors il y a plusieurs critères de discernement, mon préféré, enfin celui que j'applique en premier, disons. Si ça vient confirmer un préjugé solidement ancré en moi, ce n'est pas Dieu qui vous parle, enfin vous, ce n'est pas Dieu qui vous parle. Vous vous parlez à vous-même. C'est pas grave, hein, moi ça m'arrive tout le temps. Mais ce n'est pas Dieu. Bon. Il y a d'autres critères, notamment une parole prophétique a une autorité en elle-même, elle est porteuse d'une vérité. Raison pour laquelle un véritable prophète, même occasionnel, a à la fois confiance dans la parole qu'il annonce, puisqu'elle ne vient pas de lui, et une humilité quant à sa propre personne. Car sa personne est dépassée par la parole qu'il transmet. Ainsi, Samuel, après avoir reçu une révélation, est tiraillé entre le besoin qu'il a de transmettre cette parole et le respect, l'affection qu'il a pour Élie, à qui il doit transmettre une parole qui n'est quand même pas facile. Et on voit qu'il n'éprouve aucune joie malsaine à annoncer une mauvaise nouvelle, ce qui arrive hélas aussi. De l'autre côté, de la part d'Élie, nous apprenons le courage et l'honnêteté. Parce qu'il veut écouter cette parole, même s'il sait qu'elle ne sera pas à son avantage. Il s'en doute. S'il menace Samuel, ce n'est pas pour qu'il l'empêche de dire la vérité, mais pour le dissuader de l'atténuer, de l'édulcorer. Et il sait pourtant que la parole rapportée par Samuel vient de Dieu parce qu'elle a une vérité sur lui.
Alors ça, je baisse un peu le...
Désolé. Et une vérité sur lui, quelque chose qu'il sait, qui vient confirmer non pas ses certitudes, mais son expérience spirituelle. Cette parole de Samuel, enfin de Dieu par Samuel, met le doigt sur sa faute. Et sa faute, là je précise juste, on ne lui reproche pas d'avoir des fils qui se conduisent mal. On lui reproche de n'avoir rien fait pour corriger l'attitude de ses fils. Élie, ici, accepte le jugement de Dieu, parce qu'il l'avait déjà entendu auparavant et qu'il n'en avait pas tenu compte, et il sait qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il est trop tard. Mais est-il réellement trop tard? J'en sais rien. Hein? Souvenez-vous, avec Jonas, dans 40 jours, la ville sera détruite, et finalement, la conversion fait que la ville n'est pas détruite. Peut-être est-il encore temps pour Élie de changer d'attitude, peu importe. Nous pouvons nous retrouver, chacun, chacune d'entre nous, dans le rôle ou de Samuel ou d'Élie, voire des deux, mais pas si, enfin, à des temps différents, de messager ou de destinataire d'une parole divine. Quoi qu'il en soit, nous sommes invités à nous souvenir que la parole de Dieu, elle nous dépasse. Dépasse celui qui la transmet et celui qui la reçoit. La Bible apprend qu'être prophète n'apporte aucun avantage, aucune supériorité, même morale. D'autre part, elle nous enseigne également que repousser une parole en disqualifiant le messager est un chemin de mort. Élie aurait très bien pu refuser d'entendre Samuel. Après tout, c'est lui le gardien du sanctuaire, le gardien vénérable, alors que l'autre n'est qu'un gamin dont il a pris soin. Il avait toutes les raisons objectives et morales d'envoyer Samuel aller se moucher comme le gamin morveux qu'il devait être. Mais il a reçu la parole parce qu'il a reconnu, au-delà du messager, la vérité de cette parole. La parole de Dieu, même lorsqu'elle nous condamne, nous offre toujours une voie de guérison et de salut. Elle nous libère, elle nous redresse. Elle appuie parfois là où ça fait mal, mais c'est pour guérir. À la manière d'un médecin obligé, pour traiter une plaie, de toucher la partie douloureuse. C'est peut-être cela le critère ultime, finalement, pour reconnaître une parole prophétique. Met-elle en lumière mes fautes et mes faiblesses pour me redresser? Alors oui, il y a des chances qu'elle soit de Dieu. Me rabaisse-t-elle plus bas que terre pour me laisser détruit? Alors non, c'est une parole du monde. Bien sûr, toutes les paroles de vérité et de guérison ne sont pas divines. Elles émanent parfois simplement d'individus bienveillants, intuitifs ou observateurs. Mais si cette parole nous redresse, ne peut-on pas l'attribuer néanmoins à l'Esprit de Dieu qui prend des chemins parfois surprenants? Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, voir Dieu parler, c'était habituel. Ben non, pas plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible, le deuxième verset, si vous l'avez entendu, dit bien, la parole était rare en ce temps-là, comme aujourd'hui. Ce n'était pas différent d'aujourd'hui, où on a souvent l'impression que Dieu est bien silencieux. Pourtant, de temps à autre, Dieu s'exprime. Mais il est des messages divins comme des miracles. On peut en voir partout ou nulle part. On peut voir du hasard derrière chaque chose surprenante, ou on peut refuser de voir du hasard même dans les choses les plus banales. Vous connaissez l'histoire de la tartine, non? C'est une blague juive à l'origine, mais elle va très bien pour des protestants. Alors je vais la transférer protestant, hein, vous remplacerez dans votre esprit, si vous le souhaitez, pasteur par rabbin. C'est Rachel. Rachel, c'est bien parce que c'est un bon nom qui est à la fois juif et aussi chez les protestants, donc on va prendre bien. Donc c'est Rachel qui a un petit enfant à qui elle donne des tartines de confiture, vous voyez, et puis comme les enfants à qui on donne souvent, ils jettent. Et forcément, la tartine tombe du côté de la confiture, évidemment. Sauf une fois, un jour, la tartine tombe du côté du pain. Alors Rachel va voir son pasteur et lui dit, « Pasteur, j'ai assisté à un miracle aujourd'hui, la tartine est tombée du côté du pain. » Alors le pasteur, il est un peu libéral comme ça, donc cette histoire de miracle, ça le surprend toujours un peu. Alors il dit, « Attends, Rachel, ne t'emballe pas, je vais réfléchir. » Alors la rumeur se répand, Rachel aurait vu un miracle, tout ça, le pasteur y réfléchit. Et donc du coup, au culte suivant, le pasteur avait promis de donner une réponse, et les gens sont là pour savoir si miracle ou pas il y a eu. Alors le pasteur, il arrive, il a l'air un peu fatigué, on voit qu'il a beaucoup réfléchi à tout ça, il dit, frères et sœurs, vous êtes là pour savoir ce qu'il en est, et j'ai beaucoup prié. Oui, les libéraux prient aussi, hein, il n'y a pas de raison. J'ai beaucoup prié et j'ai compris ce qui s'est passé. En fait, non, il n'y a pas de miracle. Simplement, Rachel avait tartiné le mauvais côté du pain. voyez, c'est toujours une question de point de vue. Mais parfois, se laisser accepter de voir des petits miracles peut nous ouvrir un peu l'esprit, nous mettre sur l'esprit de la reconnaissance et nous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. Puisque Dieu ne nous parle jamais ou rarement de façon incontestable, nous sommes obligés de rester attentifs, à écouter ce qu'un potentiel prophète de circonstance a à nous dire, avant de passer directement en mode défensif. Peut-être que si cette parole est douloureuse, elle n'en est pas moins guérissante. Bien sûr, il faut aussi que le messager tienne son rôle, qu'il parle et qu'il reste humble. Les vertus attendues d'ailleurs d'un prophète et d'un destinataire de la parole sont les mêmes, humilité et soif de vie. Rien qu'avec ces deux choses, soif de vie, envie de vivre et humilité, le salut entrera dans nos vies. C'est le sens même de l'Évangile. Dieu nous appelle à être vivants. Amen. Oh, parle-moi, Cantique 2204, page 260. Je vous propose de dire ensemble la confession de la foi, c'est le numéro 3 dans vos cantiques. Celle qui commence par « Dieu est amour ». Dieu est amour. Par amour, notre Père a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de l'humanité. Son esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui comme chaque jour à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi les hommes et les femmes, comme artisans de justice et de paix, dans le royaume qui vient, comme témoin de sa fidélité, Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Chaque jour de ma vie. Prenez place. Préserve-nous, Seigneur, d'accomplir notre offrande du bout des doigts et, par conséquent, du bout du cœur. Préserve-nous, Seigneur, de garder jalousement notre superflu. Accorde-nous la grâce de mettre tout notre cœur dans le moindre de nos gestes solidaires. C'est le temps de l'offrande, le moment du don. Seigneur, nous invoquons ton esprit pour notre offrande de ce matin. C'est par ton esprit seul qu'elle portera du fruit. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces et nouvelles.
Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salué ce matin, quelques merci. Tout d'abord, on va commencer par Vincent. Merci d'avoir conduit notre culte aujourd'hui. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Merci pour votre présence, votre constance. Vous faites la richesse de notre paroisse. Les annonces que nous avons... Donc tout d'abord, mardi, nous avons la chorale à 19h15. Mercredi, il y a la prière qui est à 18h, c'est bien ça. Ensuite, une triste nouvelle, donc nous avons Madame Duclos Mireille qui nous a quittés. Et donc il y aura une cérémonie donc jeudi à 10h30
au temple.
Donc voilà. Ensuite, nous avons de prévu
le temps de prière.
Je suis en train de chercher dans les notes. Mercredi. C'est donc mercredi. Ensuite, nous avons la cérémonie œcuménique qui est prévue le 24 janvier.
Donc la semaine d'après.
C'est la semaine d'après.
Bah oui, on est le 24. Mais c'est bien d'annoncer maintenant. Mais
oui, Ok, tout à fait. Ensuite, on a un appel de l'ACAT.
Approche-toi davantage.
D'accord, il faut que je parle au micro. Donc, appel de l'ACAT, dont je vous invite à prendre, vous savez, le flyer qui est sur les présentoirs, donc dans le hall. Donc, le message, c'est en solidarité, portons dans notre prière pour l'unité des chrétiens, celles et ceux qui, au mépris de leur liberté de religion, sont persécutés en Chine, au Vietnam, au Sri Lanka, en Birmanie ou en Inde. Donc, un petit message aussi, grâce à tous ceux qui se mobilisent et qui répondent et qui envoient, donc, vous savez, ces cartes qui sont à compléter. Pour la France, donc, concernant l'impunité policière, le Conseil d'État a finalement donné raison à la CAT France et à la Ligue des droits de l'homme, LDHH. Il en effet... reconnu des failles dans l'identification des forces de l'ordre préjudiciables en cas de poursuites contre un agent suspecté d'abus et ordonné au ministère de l'Intérieur de revoir le numéro RIO, ce fameux matricule qui a été jugé insuffisant. Voilà. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui.
Moi, je voulais, remercier Frédéric et Yvon Serge pour l'accueil et Mathieu pour l'accompagnement musical.
Pierre.
Oui.
Ouais. Les da... C'est là. C'est alors, attendez, parce que quand c'est pas noté. Si, si. Alors, amitié judéo-chrétienne, donc c'est le 17 janvier à 20h à la Puya. Et ensuite, vous aviez dit, j'ai pas retenu, Pain Parole Partage, qui eux se réunissent le 21 janvier, après le culte.
Et le dimanche prochain, donc c'est un culte famille. Avec voilà. Catéchisme. Oui, Claudia.
Comme d'habitude, c'est
Sarah. Je cède la place.
Ce mardi, donc à 2h30, on va fêter les rois. Donc là, la galette de la bonne compagnie, de du chaleur. Alors je vous invite tous à venir de tous les âges, à partir de 2h30, donc au premier étage.
Mardi, 2h30.
Oui.
Ouais. 2h30, ici au temple. Pour l'entraide. Pas d'autres ? Très bien. Alors je vous invite à vous unir à la prière d'intercession. Seigneur du ciel et de la terre, Père des doux, des tout-petits et des sans-ressources, donne-nous ta sagesse cachée, ce souffle libre qui sonde toutes choses jusqu'aux profondeurs de ton mystère. Donne-nous l'intelligence de l'invisible, ce souffle vivifiant qui fait monter la joie au cœur des humains en quête de toi. Donne-nous la compréhension de l'incompréhensible, ce souffle puissant qui balaye toute argumentation pour enseigner la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur du ciel et de la terre, Père des doux, des tout-petits et des sans-ressources, donne ton souffle à notre prière. Viens toi-même intercéder en nous pour les personnes que nous te nommons, dans le secret de nos cœurs. Viens toi-même intercéder en nous pour les peuples déchirés qui occupent nos pensées. Seigneur, nous te demandons ton esprit pour pouvoir te dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont... Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Nous terminerons tout à l'heure en chantant « Que la grâce de Dieu soit sur toi » après la bénédiction. Gens de mon peuple, il faut sortir. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance, votre terre n'est pas ici, vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs, vers mon royaume. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin, la tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Vous êtes la maison de Dieu, allez, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Que le Dieu puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Sa bénédiction.
Bon dimanche à tous.